L'homme qui crée doit mettre au monde ses œuvres. Cette métaphore de l'enfantement masculin qui existe depuis fort longtemps en Europe transpose sur le plan de la création, comme l'a remarqué Daniel Fabre, l'accès rituel des hommes à la faculté génésique par lequel, durant la période juvénile, ils mettent au monde leur virilité. Je voudrais aujourd'hui étudier dans une perspective ethnocritique les expériences qui instituent la différence identitaire de l'artiste. L'œuvre de Zola, roman publié en 1886, qui raconte la vie à l'envers du peintre Claude Lantier, sera mon terrain d'enquête. On verra que la narration du processus créateur scénarise des séquences prototypiques correspondant à l'invisible initiation masculine dont Maryse Carpa vient ici de dresser un premier portrait. Le roman reprend donc et réactualise les techniques corporelles, sociales, initiatiques, typiques de la jeunesse virile et provençale. Dans une analepse ouvrant le deuxième chapitre, le roman condense en quelques pages les trajets juvéniles instituant la virilité de Claude et de Sandoz. Pendant cette période qui correspond pour Fabre à l'exploration des frontières du domestique et du sauvage, du masculin et du féminin, du visible et de l'invisible, les deux futurs artistes parcourent tout d'abord les aires périphériques de la communauté où ils se livrent à des débauches de marche, galopant encore dans les champs et les prairies, débauches les laissant épuisés et ravis. Ils sillonnent après, vers l'âge de 12 ans, les zones les moins policées du territoire, les collines, les monts, jusqu'aux espaces dangereux comme la Viorne, où ils guettent, je cite, les cachettes des anguilles, à la recherche de leur virilité. Dans des fuites loin du monde et dans une absorption irraisonnée de gamins pour les arbres, les eaux, les monts, pour cette joie sans limite d'être seul et d'être libre, les jeunes hommes en devenir courent le pays entier pendant des jours. Vient ensuite le temps de la chasse, telle qu'on la pratique dans ce pays, sans gibier, six lieux faites pour tuer une demi-douzaine de becs-figues, des expéditions formidables dont il revenait souvent les carniers vides. A priori, la narration fait emprunter à Claude et à Sandoz les voies coutumières de l'adolescence masculine. S'initier progressivement aux règles de la virilité, comme l'explique Claude Lévi-Strauss, c'est se risquer sur ces franges périlleuses où les normes sociales cessent d'avoir un sens. C'est aller jusqu'aux frontières du territoire policé, jusqu'aux limites de la résistance physiologique ou de la souffrance physique et morale. C'est aussi se mettre au défi et commettre des larcins et des délits. Dans le roman, farce, bonne blague, maraude, vol, pillage des champs d'oignons, pierres jetées dans les vitres, bancs de la cour sciée, etc. constituent les biographèmes typiques de la jeunesse virile, telles que les communes rurales du 19e siècle l'ont fait et pensé depuis l'Ancien Régime. La trajectoire des personnages masculins de l'œuvre est également balisée par la traditionnelle voix des oiseaux, dont Daniel Fabre a bien montré qu'elle organise la construction de l'identité masculine et qu'elle est liée au processus d'apprentissage des garçons, précisément au moment où ils passent du monde de l'enfance à l'état d'adolescent mâle. Pour le dire vite, cette période des oiseaux se compose d'une série d'actions comme quêter des nids, prendre les œufs, domestiquer les oisillons, se lancer progressivement à l'assaut des grands arbres, les peupliers, les frênes, pour y dénicher progressivement des oiseaux plus sauvages, tailler des sifflets pour imiter le chant des oiseaux, etc. C'est que, comme l'écrit Fabre, les oiseaux se trouvent associés à la conquête du sexe et du langage, puisque les nids, les œufs, les oisillons font irrésistiblement penser aux organes sexuels masculins. Toutefois, vivre et parcourir les aires sauvages, fréquenter la société aviaire et expérimenter les limites du corps masculin en train de se former se conjuguent chez Claude et Sandoz à d'autres techniques comme la peinture et l'écriture et d'autres manières de sentir et de saisir le territoire. En effet, rapidement, entre la poire à poudre et la boîte de capsules servant à chasser les oiseaux, Claude emporte, je cite, un album où il crayonnait des bouts d'horizon, tandis que Sandoz avait toujours dans sa poche le livre d'un poète. L'initiation à la virilité se marie à une autre voie, celle de la traversée artistique, qui consiste dans un premier temps à s'initier aux grands modèles antérieurs et à les imiter, comme les garçons imitent par exemple le chant des oiseaux, modèles antérieurs qui sont ici Hugo, Musset, Courbet et Delacroix. Et la nature qu'ils observent se couvre désormais de, je cite, un éclairage faux et superbe de cinquième acte. Les garçons font l'épreuve des pouvoirs magiques du livre et du dessin qui colorent le monde d'une teinte différente, faisant apparaître l'invisible, l'amour et l'émotivité. Ayant une fringale de lecture, ils sont avides d'admirer et de s'exalter. C'était une frénésie romantique, des strophes ailées, alternant avec des gravelures de garnison. Cette frénésie est surtout celle des drames qu'ils savaient par cœur et qu'ils jouaient sous les étoiles, je cite, d'une voix enflée pour les héros, toute mince et réduite à un chant de fifre pour les ingénues et les reines. Ces jours-là, ils laissaient les moineaux tranquilles. Alors, les ethnochrétiens remarqueront la justesse anthropologique de cette phrase. Donc, dans cette continuité de la nature à la culture, du ver à la grivoiserie, de la plume de l'oiseau chassée à la plume de l'écrivain et du peintre, les émotions des oiseleurs mènent à la voix des artistes. Doté d'une vive mémoire culturelle, le roman n'oublie pas que l'initiation masculine, particulièrement dans les contrées paysannes de la France, est intrinsèquement tributaire de la fréquentation des oiseaux qui s'accomplit précisément à l'âge où la voix du garçon change. Ainsi, la voix muée et la capacité à siffler acquise en imitant les oiseaux favorisent la séduction des filles, car le langage aviaire que le jeune apprend à maîtriser ne cesse de parler d'amour. Il n'est qu'à penser aux tourterelles et aux rossignols des chansons folkloriques. Ici, pour nos deux futurs créateurs, ce sont les drames romantiques qui les aident à découvrir les différents registres de leur voix, enflées, minces, réduites, chantonnantes, en déclamant des vers sous des pluies battantes. Ils font leur gamme en incorporant l'autre pour littéralement trouver leur voix. Mais ces voix ne conduisent pas directement aux filles, bannies de leur jeu. Claude s'était pendant 2 ans consumé d'amour pour une apprentie chapelière à laquelle il n'avait jamais eu l'audace d'adresser la parole. Néanmoins, les émotions formatrices de l'amoureux complètent les communes expériences de l'enfance masculine. La narration fait de cette voie de la virilité première un moment fondateur, non seulement de l'enfance des garçons, mais de leur traversée créatrice. D'où dans la narration de leur trajectoire artistique et parisienne, la multiplication de biographèmes culturels composés ici de scénarios, motifs et épisodes récurrents de la jeunesse masculine. Ces biographèmes que j'appellerai des embrayeurs juvéniles dramatisent et coalisent les distinctions fondamentales de l'identité, donc masculin, féminin, adulte, enfant, domestique et sauvage. On le verra, le roman est irrigué en profondeur par la juvénilité qui modélise l'initiation à la créativité. Alors, j'ai dénombré pour l'instant au moins 6 embrayeurs juvéniles qui forment donc et informent la trajectoire artistique au regard de conduite adolescente. Alors, premier embrayeur juvénile, flâner en bande. On l'a dit, la virilité se fait en explorant les territoires les limites du territoire policé. À l'amour des grandes marches et des longues promenades dans la nature de cette province reculée, se substitue à l'orée de l'âge adulte la flânerie parisienne. Donc, ils couraient les rues, les places, les carrefours, ils vaguaient des journées entières tant que leurs jambes pouvaient les porter, comme s'ils avaient voulu conquérir les quartiers les uns après les autres. La description des flâneries modernes et urbaines concentre les manières de faire et les façons de déambuler propres aux expéditions audacieuses, aux jeux juvéniles et aux chasses provençales. Le but est désormais de conquérir Paris. Je cite cette ville lasse qui attendait l'ombre, prête à se livrer au premier mâle assez vigoureux pour la prendre. Donc, conquérir Paris afin d'y dénicher des motifs, variations sur le nid d'oiseau qui vont permettre aux garçons d'accéder à leur voix artistique et de séduire le public, variations sur la jeune fille qu'il faut courtiser, j'y reviendrai. Claude, par exemple, se met à courir la ville avec la volonté de chercher un coup, comme il le disait, vivant dans un continuel frémissement, aux aguets, toujours à la minute de mettre la main sur cette réalisation de son rêve qui fuyait toujours. Mobilisant les efforts physiques et les techniques de la métisse aviaire et du chasseur, être aux aguets, prévoir les coups, galoper, observer, le peintre découvre des tableaux partout dans la ville. Comme pendant ses formidables expéditions avec Sandoz dans la campagne, la chasse est un prétexte pour dénicher des images et pour se remplir la tête d'idées. Deuxième embrayage juvénile, peindre en plein air. Arpentant le territoire provençal, à la recherche d'oiseaux à capter, de trous où se baigner, de champs où courir, arpenter le territoire à la recherche d'oiseaux, c'est aussi pour ces garçons une manière d'éprouver et de développer une acuité visuelle. De leurs expéditions pendant lesquelles ils ont parcouru les franges et les parages de la campagne, les garçons ont ramené un savoir qui transforme leur regard. Que le processus créateur joue à l'âge adulte, le jeu de l'oiseleur suggère une initiation à la virilité juvénile conçue pour eux comme une façon de s'initier à une nouvelle culture visuelle marquante. Ainsi, les belles journées de plein air et de plein soleil conduisent naturellement à la peinture du plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu'ils se comportent dans la vraie lumière. Cette invention picturale, tout autant que la voyance du génie, prennent leur source dans le coup d'œil juvénile. L'émerveillement visuel et pictural du peintre prolonge la captivation et la fascination opérées par la voix aviaire de la jeunesse. Se mettre au diapason de la nature et retrouver une perception émotionnelle du monde, tels sont les états que dessinent les premières esquisses faite là-bas par le peintre, qui confirme donc à Claude son talent. Les ébauches sont pleines des réminiscences des paysages provençaux, montrant toutes sortes de coins bien connus. L'artiste, arpentant par le pinceau les bornes du territoire à la toponymie poétique et érotique, qui annonce la sensualité du processus créateur. Donc, c'est la situation que vous voyez à l'écran. J'ai marqué en italique les marqueurs, mais je ne la lis pas. Donc, sur les esquisses placentiennes résonnent les souvenirs des épreuves viriles où les garçons se sont battus, où ils ont, je cite, « failli se casser les os en grimpant avec du bûche au fond de Jaumegarde ». On a bien affaire à une peinture buissonnière qui capte, en tout cas dans les premières ébauches, les moments clés de la juvénilité masculine. Or, les ébauches, les esquisses, les morceaux qui juvénilisent, permettez-moi ce néologiste traditionnel à dire, qui juvénilisent, pardon, l'atelier parisien, ne parviennent jamais à l'image du peintre à pleine maturité. Claude est celui qui est incapable de finir. Pour lui, finir conduit à empâter, épaissir et gâter le dessin. N'est-ce pas aussi cela, devenir adulte et bourgeois, s'empâter, s'épaissir, se gâter? Si Claude échoue, c'est en partie parce qu'il n'arrive pas à trouver des accommodations techniques et artistiques pour concilier l'éthos buissonnier de l'âge adolescent et le travail pictural de l'âge adulte. Comment faire le chef-d'œuvre avec des techniques juvéniles, par nature inachevées, mal maîtrisées, exploratoires, non agrégées? Peindre à Paris en plein air suppose d'adapter à la ville et à l'âge adulte les techniques picturales et corporelles expérimentées dans les grands espaces de la campagne. Il fallait en outre se battre contre les choses. La peinture sur nature au plein air devenait impossible dès que la toile dépassait certaines dimensions. Puis il y avait mille contrariétés du temps, le vent qui emportait le chevalet, la pluie qui arrêtait les séances. Ces jours-là, il rentrait hors de lui, menaçant du poing le ciel, accusant la nature de se défendre pour ne pas être prise et vaincue. Claude doit faire preuve de prouesse et d'inventivité dans l'exécution des tableaux. Les difficultés matérielles et techniques à surmonter sont nombreuses, car le plein air induit une transformation radicale de l'expérience de peindre, là où la voix des oiseaux induisait une transformation de l'expérience de voir. Mais comment ne pas encore saisir dans ce combat contre la nature, contre le vent et la pluie, une tentative de réinvention des manières juvéniles? Le passage de la peinture réalisée dans un atelier vers une pratique extérieure rejoue le franchissement viril des frontières entre l'espace domestique et l'espace sauvage. Troisième embrayeur, affronter l'invisible. Le peintre doit en outre vaincre la nature. Comme le dit Zola dans le dossier préparatoire, il s'engage dans une lutte avec l'ange. Cette lutte est similaire à celle que mènent les jeunes garçons dans les contes, qui doivent se mesurer à des êtres surnaturels, diables, ogres, afin d'accéder à leur destin. En fait, le roman reconfigure une mémoire culturelle qui convoque et motive des logiques du conte. Dès l'Incipit, l'univers merveilleux vient offrir un contrepoint à l'esthétique naturaliste. La rencontre entre le peintre et Christine étant en effet placée sous le sceau des contes. Dans le regard de la jeune fille, l'artiste a l'air tout droit sorti d'un conte de brigand. Alors que l'aventure qu'elle lui raconte pour expliquer son arrivée à Paris ressemble, selon Claude, à des contes à dormir debout. Christine ne tardera pas à devenir, aux yeux de Claude, aux yeux de Claude, comme ces fées des contes qui sortent du plancher et qui rentrent dans les murs. Bref, si le début du roman distribue les genres repoussoirs, comme les contes de peur, les contes de fées, le vaudeville, la féerie, c'est surtout la biographie du peintre qui me semble réactiver d'un point de vue structurel des trames et des motifs du conte. Né d'une mère très jeune qui s'enfuit avec son amant, Claude est un enfant du manquement. Il sera abandonné par sa mère Gervaise à l'âge de 9 ans, car un vieux monsieur de Provence s'était présenté en leur demandant Claude qu'il voulait mettre au collège près de lui, la toquade généreuse d'un original amateur de tableaux que des bonhommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Ce schéma biographique peut être lu, il me semble, comme la reconfiguration de l'épisode fondateur du conte de l'enfant vendu au diable par ses parents, dans lequel celui qui est voué à la mort et au diable se révèle capable de les duper, voire de les dompter. Claude est voué par le don de ses parents à l'amateur de tableaux, à l'art. Et sa vie d'artiste impuissant le prédestine à une mort avant l'heure. Car contrairement au garçon rusé du conte qui déjoue le diable, il se révèle incapable de dompter la nature. Dans tous les cas, l'affrontement avec l'altérité est une séquence type des contes, le défi également. Enfin, on peut dire que sa quête l'amène dans l'autre monde de la folie, de l'ensauvagement, de la mort, d'où, à l'inverse des héros du conte, il ne revient pas. Pour domestiquer la nature au lieu d'être soumis à elle, Claude construit donc ses propres réponses en termes d'outils et de techniques, de corps et de manières. Il s'invente en quelque sorte des aides magiques. À la science qui entrait dans la peinture et aux spéculations techniques s'adjoint une part de mystère, de mystique, une apparente déraison superstitieuse qui transforme l'acte créatif en acte magique. Donc je lis une portion de la citation. Claude en arrivait à une sorte de superstition, à une croyance dévote au procédé. Il se permettait toutes sortes de pratiques mystérieuses dans l'application du ton. Il se forgeait des recettes, en changeait chaque mois, croyait avoir brusquement découvert la bonne peinture. Une de ses manières avait été longtemps de peindre de droite à gauche, sans le dire, il était convaincu que ça lui portait bonheur. La création est une domestication des forces surnaturelles et des influences mauvaises. Face aux effets du sort et aux obstacles de la technique, l'artiste tente de contrôler les résultats du processus créateur par les moyens de la magie. Cette pensée sauvage où se conjuguent perceptions sensibles de l'univers, sens pratique, recettes magiques, codes d'honneur, façon de faire singulière, renvoie, il me semble aussi, à des conduites juvéniles qui précisément dénient l'ordre stable des valeurs de ce monde, tout autant qu'à un imaginaire des savoirs féminins. Au fond, son intransigeance de réaliste cachait des superstitions de femmes nerveuses. Il croyait à des influences compliquées et secrètes. Tout allait dépendre de l'horizon choisi, néfaste, heureux. Or, les manières de sentir et surtout de pressentir du peintre sont déjouées par le système prédictif du récit qui constamment éclipse et annule ce régime de croyance tournant à l'obsession. Les techniques inventives et magiques ne lui portent pas bonheur, bien au contraire. Là où Claude lit de bons présages, là où il inaugure un nouveau tableau, une nouvelle méthode, un nouveau outil, le récit condense des signes funèbres qui annoncent une kyrielle de malheurs qui le mèneront jusqu'au suicide, comme si le peintre était en effet victime d'un mal surnaturel. C'est par exemple la dernière trouvaille technique pour l'aider à réaliser sa grande œuvre qu'il rêve aux larges dimensions, l'échelle roulante à plateforme et à marchepied mobile. Avec elle, il se grandit, prend de la hauteur, comme un oiseleur, et la narration de le décrire toujours haut perché dans les airs. Or, rappelons qu'il meurt pendu devant son tableau inachevé, ce qui offre une image inversée d'un garçon dans les arbres. Quatrième embrayeur juvénile, siffler les filles. Pendant leur jeunesse provençale, Claude et Sandos ont vécu une aventure galante pendant laquelle ils ont donné des sérénades aux petites demoiselles, des nuits passées sous les fenêtres à jouer de la clarinette et du cornet à piston. Donc, loin de maîtriser correctement le chant des oiseaux, les deux garçons jouent des cacophonies affreuses qui effraient les bourgeois du quartier. Servant à courtiser les jeunes filles en imitant difficilement ici le gazouillement des oiseaux, cette cacophonie induit et annonce l'incapacité de Claude et de Claude, en tout cas, à charmer, il me semble, le public du salon. Le texte, en effet, transpose comme en écho la cacophonie juvénile dans la scène du Salon des Refusés, où le public accoutumé à la peinture académique est incapable de comprendre l'innovation picturale. L'accueil qu'on lui réserve relève d'une forme de charivari qui se compose ici et là de farces, de cris d'animaux, de huées, d'une clameur grandissante, etc. Donc, les sifflements du public se moquant de l'étrangeté de cette peinture ont partie liée avec le malheur et sa prédiction dans la logique narrative du récit. Car si siffler les filles est, dans les villages français, une technique de courtisement qui éventuellement mène au mariage, se faire siffler dans la culture urbaine, mondaine et artistique des salons, c'est évidemment faire scandale et rater son rite d'institution. Ainsi, les manifestations sonores annoncent-elles les conflits et tensions inhérentes à la culture officielle, les résistances symboliques à un autre rapport anthropologique à la peinture, mais elles signalent aussi, sur le plan de l'intrigue amoureuse qui inaugure le roman, le désordre matrimonial à venir. Le récit articule en effet autour de la bande sonore réprobatrice une mantique où les cris et rires assourdissants qui signent la défaite de plein air, hein, le tableau donc, de Claude Lantier, donc, où ces rires agissent comme de mauvais augures. Témoin auriculaire impuissant devant l'hilarité du salon, Christine comprend bien que c'était elle qu'on sifflait, puisqu'elle a servi, je le rappelle, de modèle pour une des femmes nues du tableau. Et le récit retrouve en creux ce lien anthropologique entre siffler et s'épouser, car Christine se donne pour la première fois après ce boucan infernal au Salon des Refusés. Depuis la salle où les rires l'avaient soufflé, il les entendait le poursuivre comme une meute aboyante. Elle le baisa, elle lui souffla jusqu'au cœur d'une haleine chaude, « Tais-toi, tais-toi, je t'aime ». Le récit instaure une continuité symbolique entre la meute aboyante du salon et les noces sur le divan dans l'atelier. Le charivari du salon, au lieu de les éloigner, les unit. Et de cette nuit de mai, dévastatrice pour l'enfantement de l'œuvre, naîtra Jacques, l'enfant du rire et de la honte. Et Christine accouche à la mi-février, en plein carnaval, du petit Jacques. Lui, qui est le fruit des huées du public et de la risée de plein air, ne peut, dans la logique prédictive du récit, que mourir, juste à temps pour être exposé au salon de mai. Cinquième embrayeur, beaucoup plus rapide, donc l'apprentissage des différences de genre. Donc, Claude a une passion chaste pour la chair de la femme. D'une timidité maladive, il parvient difficilement à faire la distinction des sexes et est inapte à entrer en relation avec les jeunes femmes. Devant Christine endormie qu'il voit pour la première fois, il redevient un petit garçon. Mal initié à la différence sexuée et aux manières de séduction, lui qui est pourtant surinitié à la construction visible des corps féminins, le prêtre traite Christine en bon garçon, agissant avec elle comme un camarade. Enfin, s'il parvient à goûter avec Christine les plaisirs de la chair, après quelques années de conjugalité qui riment avec stérilité créatrice, l'impérieuse nécessité de la création reprend le dessus. L'élan créateur, décrit comme une seconde jeunesse, s'avère incompatible avec la vie matrimoniale. Donc, plus Claude cherche à souffler la vie à son œuvre, et plus il s'enfonce dans une chasteté théorique. Où il devait aboutir pour donner à la peinture toute sa virilité, retrouvant là une conception de l'époque sur la nécessaire ascèse sexuelle de l'artiste dont on a parlé hier là, avec mes collègues. Donc, conception sur laquelle là, je passe très, très rapidement, puisqu'elle a été largement étudiée par la critique zolienne et par tous les spécialistes du roman de l'artiste au 19e siècle. Donc, ce transfert de la virilité lui est évidemment reproché par l'épouse. « Il y a 8 mois, 7 jours que nous n'avons rien eu ensemble », dit Christine. Alors qu'à l'inverse, il montre une fidélité toute conjugale avec l'œuvre à faire, et notamment avec les femmes peintes. Et Christine, de critiquer cette relation toute particulière qu'il noue avec ses maîtresses, donc les femmes peintes, est-ce malsain et stupide un pareil désir chez un garçon, brûlé pour des images, serré dans ses bras le vide d'une illusion? Ainsi, s'unir avec une image ou un idéal, c'est aimer de façon anachronique, comme un jeune garçon. Au travers des relations intimes qu'il entretient avec son œuvre, l'artiste dévoile ses rapports problématiques à l'autre sexe, au sexe et au corps. Dernier embrayeur, l'artiste enceinte ou enceinte. De l'union avec l'œuvre ressort un langage particulier, celui de l'étreinte sexuelle et celui de l'enfantement. Zola, sur le premier feuillet de son dossier préparatoire, indique clairement le sujet du roman, qui est l'enfantement de l'œuvre contre l'enfantement de la chair. Je mets les titres qui sont essayés et rejetés par Zola, qui rejoue hein, tout cela. Donc, pour parvenir à cerner les mystères de la création, la langue du roman érige tout le processus de la reproduction et transfigure la banalité de l'appariement en le dissociant et de la continuité de l'espèce et de la manifestation figée des rôles sexuels. Donc, à ce titre, on pourrait parler de la traversée créatrice de l'enfantement. Ainsi, donner à la peinture toute sa virilité s'effectue paradoxalement en s'appropriant les pouvoirs maternels et génésiques. Et rappelons également que le terme « création » utilisé pour définir le geste artistique est à cette époque récent, hein, il date de 1810. Et si sa fortune est telle aujourd'hui qu'il relève du cliché, le paradigme de la création compris comme une procréation est au cœur de l'imaginaire social et artistique de ce siècle qui voit la naissance de l'artiste moderne. D'où l'image répétée tout au long du roman de l'artiste en Gésine. C'est la citation, une des citations donc à l'écran que je ne lis pas. Donc, ce rêve de l'autofécondation dont parle magistralement Daniel Fabre hein, dans ses travaux sur le processus créateur n'est pas justement sans rappeler les fantasmes juvéniles masculins actualisés dans les carnavals sous la forme du garçon enceint. Où pour faire l'épreuve de la masculinité, les jeunes expérimentent l'altérité féminine en se déguisant en femme, en mangeant des éléments flatulents pour se gonfler le ventre et pour accoucher de bêtes. Or, le peintre zolien souffre d'un mal de la délivrance. Incapable d'accoucher de son génie et de délivrer l'œuvre, d'en afficher la paternité, de lui donner son nom, il présente un corps grotesque, toujours en situation puerpérale. L'incompétence à entrer dans l'ordre symbolique de la maternité et de la reproduction créatrice caractérise le peintre raté comme un être incomplet, impuissant, et là dans le dossier préparatoire le mot impuissant est partout, fixé dans une marge transitoire à l'orée de l'accouchement et de la reconnaissance. Artiste enceint, incapable d'enfanter, donc de s'agréger, il ne réussit pas à faire l'épreuve de la postérité et à pénétrer dans le monde des grands. Qu'on retrouve pour définir le processus créateur à la fois le langage de la jeunesse tout autant que celui de l'accouplement brutal, hein, c'est un terme de Zola, de la gestation, de la parturition, de l'avortement, de l'impuissance, suggère que l'enfantement artistique est une crise singulière de la virilité qui présuppose une refondation du corps masculin créateur, une reconversion des statuts ontologiques des identifications masculines. Cette métamorphose consiste, comme l'écrit Daniel Fabre, essentiellement en une annulation, ou plus exactement une reformulation de la différence et de la distance entre les sexes. Cette conversion qu'il appelle androgyne conduit, dans le roman, à des désordres de la filiation et de l'alliance. Il n'est qu'à penser au destin de l'enfant idiot Jacques, qui meurt avant l'heure, exposé au salon en guise d'enterrement, laissant l'artiste sans descendance. Ou à l'organisation quotidienne de la conjugalité, ou à l'obstacle entre le couple qui se dresse lors de leur nuit de noces, pour comprendre le décalage filial, matrimonial, généalogique que la vie à l'envers du peintre génère. C'est tout le paradoxe de l'artiste. Alors que le talent, en tout cas chez Zola, se dit et se mesure en termes de virilité, le créateur doit en même temps garder un pied dans le monde de la jeunesse, là précisément où il peut visiter, habiter, vivre la part enfantine et féminine en lui. Bref, là où il expérimente, ici sur un mode de l'excès, les différentes formes d'altérité. Or, l'âge d'homme atteint, les conduites juvéniles doivent, en tout cas selon le modèle bourgeois, être devenues inutiles. Il ne faut donc point s'en écarter, à moins de courir le risque d'y rester attaché. Et précisément, Claude refuse de quitter cet âge où l'on peut se passer de défier l'absolu, continuant en effet, à chaque année, à défier la nature, à défier le jury, à combattre l'invisible en s'ensauvageant dans une rage de la création. Il continue, en somme, à mener un style d'existence juvénile fondé sur la prise de risque, le hasard, la quête de l'idéal, la sublimation des désirs, la confrontation avec l'au-delà, la mort et le danger qui guette et bien de s'immobiliser là-bas. Avec lui, jeunesse ne se passe pas complètement. Alors, je conclue très, très brièvement. L'artiste, cette nouvelle figure moderne au 19e siècle, rompt avec la tradition, non seulement académique, picturale et esthétique, mais également sociale et coutumière. La traversée créatrice est ponctuée d'un ensemble d'inversions et de transgressions dans l'ordre de la coutume, dans l'ordre des relations entre les sexes et dans les formes de la vie conjugale, car l'existence artistique impose de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'aimer, de se reproduire, manière fondée sur le cumul des âges, des sexes, des statuts, comme je viens d'en parler. Et pourtant, c'est ce que j'ai tenté de montrer, le roman moderne s'appuie aussi sur des modèles éprouvés, ceux des rites de la virilité et de la juvénilité, dont il actualise et active des variantes singularisantes, afin de les transformer et de les conformer à la trajectoire de vie artistique, cette nouvelle trajectoire de vie artistique qui s'institue dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, ces biographèmes culturels et initiatiques qui relèvent d'une trame largement implicite d'expériences partagées et qui réalisent la conquête de la masculinité en viennent alors à manœuvrer en sous-main tout le travail de l'œuvre, à éclairer, à ordonner et à ériger des topos narratifs qui font et qui fondent l'identité artistique, elle aussi le fait d'une conquête. Ainsi, pour narrer une existence maintenue aux marges de l'ordre domestique et de la vie réglée, la fiction articule étroitement la production des vies à part ou des vies à l'envers au cycle commun de la reproduction sociale. Donc, la singularité créatrice ne tombe pas du ciel, mais émane bien ici de la coutume. Merci.